Dernière intervention de cette table ronde, donc le professeur Sadi Berkane d'Algérie.
Oui, merci. Merci Eric. D'abord, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, mon travail va porter sur la prise en charge, l'historique de la prise en charge de l'hépatite B et C chronique en Algérie, en accent sur les acquis, les insuffisances et les perspectives. Alors, je clôture la marche. Tout à l'heure, mon ami le Togolais parlait de manque de moyens. Moi, je vais vous rapporter donc cette présentation où, parfois, quand on a des moyens, ça ne veut pas dire que tout va marcher, que tout va bien. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne la richesse, on était très pauvres après l'indépendance, on est devenu riche. Puis, il y a quelques années, il y a eu le problème terrorisme et les prix très bas du pétrole. On est arrivé presque à la cessation de paiement, donc il n'y avait pratiquement pas d'argent. Puis maintenant, on est devenu riche, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux. On va le voir. Donc, je vais vous rapporter un peu l'impact de l'hépatite chronique B et C en Algérie. En 1979, c'est des maladies qui sont devenues déclarations obligatoires. Le dépistage systématique obligatoire du sang pour l'antigène HBS en 1981, pour l'anticorps anti-C en 1994, pour le don d'organes en 1998. En 2000, on a instauré la vaccination des personnes exposées au risque d'infection par le virus de l'hépatite B, mais en pratique, ce n'est pas toujours appliqué. Et en 2003, après insistance, donc recommandation de l'OMS qui datait de 1991, seulement en 2003, on a instauré obligatoirement la vaccination de tout nouveau-né algérien. Alors voici quelques données sur la séroprévalence de l'hépatite B et C. Chez le donneur de sang, pour l'antigène HBS 1,09, pour l'anti-VHC 0,49, au sein des populations générales, c'est une enquête qui a été menée en 1998 sur 10 000 sérums, on a trouvé 2,18 de portage d'antigène HBS. On n'a pas d'études pour l'hépatite C, mais on pense au moins qu'il est au moins d'1%. Alors, en 2005, quand on a tiré la sonnette d'alarme sur l'importance, la prévalence de l'hépatite C en Algérie, le ministère ne nous a pas cru et il a demandé une enquête régionale qui a concerné 6 préfectures de l'Est du pays et il a trouvé un taux de 3, en moyenne de 3,46, avec dans certaines régions plus de 7% de patients porteurs sérologiquement positif, porteur de l'anticorps anti-virus l'hépatite C. Et ils n'ont pas validé cette enquête parce que ça ne les arrangeait pas. Puis ils ont fait l'enquête en 2009 chez les hémodialysés parce que c'était un gros problème. Et on a trouvé 10,5% de porteurs de l'antigène et presque 24% d'Algériens porteurs de virus de l'hépatite C. Concernant les modes de transmission probables, alors pour l'hépatite C, il s'agit essentiellement de transmission nosocomiale. Et pour le virus de l'hépatite B, il y a également une part importante de transmission nosocomiale, mais il y a également une part importante liée à la transmission verticale mère-enfant et horizontale intrafamiliale. Et c'est pour ça qu'on trouve des familles de 10-15 membres qui sont tous porteurs de virus de l'hépatite B. Alors pour les drogués, on a 1,4% seulement intraveineux. En majorité, chez nous, c'est la toxicomanie neuroleptique qui est très répandue, mais de plus en plus, on rencontre des jeunes patients qui utilisent donc, s'injectent de la cocaïne et de l'héroïne. Alors, pour le génotype, pour le virus de l'hépatite B, plus de 84% de nos patients ont le génotype D. Pour le virus de l'hépatite C, alors il s'agit en majorité du génotype 1 et en particulier le sous-type 1B qui est réputé difficile à traiter. Alors, concernant la vaccination, donc on a instauré depuis 2003 la vaccination à la naissance. Alors, le nouveau-né reçoit dès la naissance la première injection, une deuxième à 1 mois et une troisième à 5 mois. C'est un vaccin monovalent. Alors, j'étais étonné d'entendre lors de la réunion de Dakar, de juillet, qu'on vaccinait les enfants à 6 semaines. Donc, ça ne sert à rien. On ne peut pas prévenir comme ça la transmission materno-fœtale. Alors, on a une couverture vaccinale de l'ordre de 88% à l'échelle nationale. Alors, concernant la prise en charge proprement dite des hépatites chroniques, vous savez que toutes les explorations cliniques et paracliniques effectuées au milieu hospitalier sont gratuites. Donc, c'est fait, et le traitement était à usage hospitalier, gratuit, mais pendant des années, il n'était pas disponible. Et ça nous gênait beaucoup d'explorer un patient, de lui faire tout le nécessaire, faire une PBF, et de lui dire que vous nécessitez un traitement, mais malheureusement, il n'existe pas. Et la première réponse, c'est quand est-ce qu'il sera disponible? On ne sait pas. C'est très frustrant. Et le problème des hépatites était totalement méconnu par les autorités sanitaires. Pour eux, il n'y avait pas de problème d'hépatite. Il y avait un problème parce qu'il y avait d'autres maladies qui étaient plus médiatiques. Par exemple, la typhoïde, la tuberculose, c'était des problèmes beaucoup plus préoccupants que les hépatites. Alors, il y a deux périodes. Il y a une période donc avant et après 2003, on va le voir, et avant et après 2007. Alors, en 2003, c'est l'association SOS Hépatite Algérie qui est née et qui a fait beaucoup de choses pour justement pour le bien des patients. À ce jour, cette association a créé 35 bureaux wilaya, composés en majorité de patients sur 48 wilayas que compte le pays. Et donc, c'est des patients qui sont volontaires et qui sont très actifs pour promouvoir donc la prise en charge de ces patients. Alors, comme il n'y avait pas de traitement, on a décidé avec quelques médecins volontaires et l'association, donc on a décidé de sillonner le pays et partir dans les régions où il y avait beaucoup de cas déclarés d'hépatite C. On n'avait pas de traitement, donc ce qui nous restait, c'est la prévention. Alors, on est allé dans l'intention de parler aux médecins pour les sensibiliser sur la prise en charge. Bon, les médecins ne répondaient pas. Ne répondaient pas parce que c'est un médicament hospitalier, il n'existe pas. Donc ça ne sert à rien, pourquoi je vais vous écouter un médicament qui n'existe pas. Et on s'est retrouvé avec des salles de 200-300 malades, patients et parents de malades. Et ce qui fait qu'on a changé de coup de fusil maintenant et on a fait pendant des années la prévention. Hein? Et donc, on a essayé de sensibiliser et former les médecins qui voulaient pour la prise en charge des patients. Et on profitait, lors de la célébration de la journée de l'hépatite, on faisait passer des messages, le plus souvent alarmistes, au niveau de la radio, dans les journaux, à la télévision. Et on ciblait, par exemple, les journaux, parce qu'on savait que certains ministres, certains décideurs lisaient certains journaux. Donc, on ciblait les gens. Et ça a créé une sorte de pression sur le gouvernement. Et donc, on arrive à l'année 2007, où les autorités ont donc décidé d'allouer un budget conséquent de l'ordre de 40 millions de dollars pour la prise en charge des hépatites C. Il y avait de l'argent, il y avait des gens dans la rue Sagrandet, donc tenez de l'argent, faites ce que vous en voulez, mais ça ne résout pas tous les problèmes malheureusement. Donc ça nous a permis depuis 2007 de traiter en moyenne 1200 hépatites C, à peu près 240 hépatites chroniques B. Alors, depuis, l'association SOS Hépatite Algérie a donc pris part à de nombreuses actions, parmi lesquelles la création d'un réseau national de psychologues et de paramédicaux, la formation dernièrement du premier groupe pour l'éducation thérapeutique du patient, qui est très importante, organiser des forums de discussion regroupant patients, psychologues et pathologues, sensibiliser et mobiliser les médias. Ils ont lancé plusieurs concours récompensant le meilleur reportage sur les hépatites. Ils ont distribué des supports d'information pour inciter la population au dépistage. Organisation de la journée parlementaire, j'ai participé et on a discuté avec la commission médicale qui a pris note, qui a résumé et qui a transmis au gouvernement et qui a demandé l'obligation de résultats et ça n'a rien bougé, malheureusement. Alors, et récemment, dans une semaine, ils vont entamer une caravane du Sud, qu'on appelle une caravane du Sud, c'est une campagne, ils vont passer 10 jours, ils vont sillonner toutes les régions du Sud, où vous savez qu'il y a un brassage communautaire très important avec un risque de maladies transmissibles, pour sensibiliser les gens au dépistage et à la prévention. Alors, en 2007, on a créé le comité de lutte contre les nationales, contre les hépatites, dont je fais partie. Et à ce jour, donc 2007, voici ce qu'on a demandé, bon, c'est ce qui est faisable et qui est demandé partout, c'est d'imprimer et diffuser des guides de bonnes pratiques pour la prévention et la désinfection du matériel à risque, faciliter l'accès au matériel performant désinfection et de stérilisation, rattrapage vaccinal des enfants, on a vacciné ceux qui sont nés depuis 2003 et tous les autres, on les a oubliés. Le dépistage obligatoire de la femme enceinte, il n'est pas encore pratiqué. Alors, quand on a une femme enceinte porteuse de l'antigène HBS, les immunoglobulines ne sont pas disponibles, même si on a le vaccin. Et enfin, une répartition équitable de la biologie moléculaire. Elle est concentrée essentiellement au niveau des grandes villes, alors que, par exemple, au sud, il n'est pas possible de faire une biologie moléculaire. Alors, quelles sont les perspectives? Je vais revenir un peu aux déclarations et aux conclusions qu'on a tirées lors de notre réunion à Dakar de juillet 2007. Alors, il faut sensibiliser, il faut mettre la pression sur les décideurs politiques pour la prise de mesures efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement, de sensibiliser les parties prenantes et les populations pour la prise de mesures efficaces de prévention, c'est important. Si on ne peut pas traiter, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, et s'il n'y a pas de traitement, au moins faire la prévention. Il faut un plan d'action, un moyen adapté aux données et aux réalités locales. On a discuté donc à Dakar, si on ne peut pas se payer le test ELISA, il y a des tests rapides. S'il n'y a pas de médecin spécialiste, on peut former des généralistes ou des infirmiers. S'il n'y a pas de biologie moléculaire, il n'y a pas de biopsie hépatique, on peut s'aider du fibroscan par exemple, qui est déplaçable, pratique, facile. Et enfin, si on fait tout ça, c'est pour traiter. Autrement, ce n'est pas la peine. Et le traitement, alors, il est cher. Alors, soit il faut associer avec le laboratoire pour réduire les prix, faire la même chose que pour le sida, ou bien il faut avoir cet argent, justement. On arrive au problème important du financement et tout le monde doit être impliqué, l'État, collectivité locale, secteur privé, mécène et philanthrope. Et je reviendrai juste pour la question de la vaccination. On en a parlé à Dakar. C'est une question de souveraineté nationale. C'est-à-dire que normalement, on doit vacciner tous les nouveau-nés. Et c'est faisable, c'est possible. On n'a pas besoin d'aller demander de l'argent des organisations ou autres. Alors, en conclusion, les hépatites chroniques virales B et C demeurent un sérieux problème de santé publique et il est important d'en faire une priorité et cela passe par une politique nationale de prévention et d'accès aux soins. Je vous remercie.
Merci Saadi. Des questions dans la salle ? Réaction ?
Pour revenir sur les modes de contamination, si j'ai bien compris, par rapport à l'hépatite C, c'est principalement par les transfusions sanguines ou...
Alors, bon, ça c'est connu, l'hépatite C touche plus la femme, l'hépatite B plus l'homme, l'homme jeune. Alors, chez nous, ce qui rend difficile, c'est l'âge moyen des hépatites C, c'est au-delà de 35 ans. Alors, quand on voit la femme, quand on étudie les antécédents, elle a accouché à domicile ou à l'hôpital, elle a fait des avortements, elle a été opérée, elle a été transfusée, et il y a des coutumes locales, c'est la scarification, c'est le tatouage. Mm-hmm. Donc, on trouve 5-6 facteurs de risque possibles chez la même personne. Donc, c'est difficile de... Mais je sais que la plupart sont passés par le milieu hospitalier. C'est pour ça que je parle de transmission nosocomiale. Pour le sang, normalement, ça fait longtemps qu'on a réglé le problème. Depuis 81 pour le B et depuis 91 pour le... 94, pardon, pour le virus de l'hépatite C. Normalement, le sang, il est sécurisé. Je vous ai dit là, jusqu'à... Oui, alors, parce qu'il y a d'autres services à Alger qui s'occupent spécialement des toxicomanes, des CDN, si vous voulez, hein, des CDN. Chez nous, il y a beaucoup plus de toxicomanie aux neuroleptiques, aux cachets. Ouais. Maintenant, on commence à voir de plus en plus de sujets jeunes qui se mettent à l'héroïne, à la cocaïne. Maintenant, moi, j'ai à peu près presque 1080 cas d'hépatite C, bonjour, je n'ai pas de cas de co-infection avec le VIH. Mais par contre, il y a des collègues qui prennent en charge des toxicologues, les VIH à l'hôpital Qatar, à Alger. Ils m'ont dit qu'ils ont 6% de co-infection C. Mais je n'ai pas d'expérience de co-infection VIH-VAC.
Plus d'autres questions? Vous avez envie d'aller en pause, j'ai l'impression. Il me reste à vous remercier tous pour votre participation à cet atelier. Et continuez le combat. Voilà.